RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. BNPB, 150 millions d'Indonésiens vivent dans des zones sujettes aux catastrophes. Le Parlement optimise que la coopération indo-tchèque augmente de plus en plus. L'excédent de la balance commerciale d'Indonésie dans 0,09 milliards de dollars américains. Célébration de la Journée internationale des monuments et des sites, le ministère de l'Éducation et de la Culture organise des expositions et des discussions culturelles. Le thon de Sumatra occidental est exporté vers le Japon et les États-Unis. Voici le journal complet. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou BNPB, a officiellement fixé le 20 avril en tant que journée de préparation aux catastrophes, ou HKB. Il est basé sur la situation de l'Indonésie en tant que pays sujet aux catastrophes. Le chef de BNPB, Willem Rampangilai, a déclaré dimanche le 15 avril à Jakarta que l'Indonésie est difficile à échapper aux catastrophes naturelles, car elle est entourée par la ceinture du feu du Pacifique.
Kita tahu juga bahwa negara kita ini dilalui oleh cincin api Pasifik.
Nous savons également que notre pays est traversé par le cercle de feu du Pacifique, si bien qu'il y a 150 millions de nos habitants vivent dans des zones sujettes aux tremblements de terre. 60 millions vivent dans des zones inondables, 40 millions vivent dans des zones vulnérables aux glissements de terrain, 4 millions sont sujets aux tsunamis et 1 million vivent dans des régions sujettes aux éruptions volcaniques qui est toujours sous la menace. Willem Rampangilai a déclaré que la gestion des catastrophes était une responsabilité commune du gouvernement, de la société et du monde des affaires. Par conséquent, BNPB a tenu spécifiquement la commémoration de HKB à laquelle est également assisté par ces éléments. BNPB lui-même estime que le HKB rend tous les éléments de la société plus réactifs pour surmonter le problème de la gestion des catastrophes. À travers de cette activité HKB, Willem Rampangilai espère sauver plus de vies indonésiennes des catastrophes naturelles, surtout pour réduire l'impact des catastrophes qui est très complexe et multidimensionnel. Le chef de la délégation de la Commission SI du Parlement de l'Indonésie, Dito Ganinduto, a exprimé son optimisme que la République tchèque serait l'un des partenaires potentiels pour l'Indonésie dans le cadre de l'expansion des marchés non traditionnels de l'Indonésie, en particulier dans la région de l'Europe centrale et orientale. Dito Ganinduto, dans l'événement convivial avec l'ambassadeur d'Indonésie et du peuple indonésien à Praha, République tchèque, récemment espère l'Indonésie, via son ambassade à Praha, continue d'explorer le grand potentiel de marché pour augmenter le commerce extérieur de l'Indonésie. Comme cité par Antara, la Commission 6 du Parlement indonésien ou DPR RI a fait une visite de travail en République tchèque du 9 au 14 avril. À cette visite de travail, la délégation de la Commission 6 de DPR RI a également tenu une réunion avec le Comité économique du Parlement de la République tchèque. Un certain nombre de questions abordées lors de la réunion, entre autres, la gestion des entreprises publiques, le développement de l'énergie nucléaire pour la croissance économique et la dynamique du secteur des technologies de l'information dans le contexte de l'économie numérique. La balance commerciale de l'Indonésie pendant 3 mois exécutifs depuis décembre 2017 a un déficit. En mars 2018, le Bureau central des statistiques, ou BPS, a enregistré l'excédent commercial d'un 0,09 milliard de dollars américains. L'excédent se produit parce que la valeur des exportations indonésiennes en mars 2018 a atteint 15,58 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,04% par rapport à mars 2017. Cependant, la valeur des importations d'Indonésie en mars 2018 a atteint 14,49 milliards de dollars américains. Le chef du Bureau central des statistiques au BPS, Kecuk Suharyanto, lors d'une conférence de presse à Jakarta, lundi, a dit que le secteur minier non pétrolier et gazier et l'industrie de transformation contribue grandement à l'excédent au mois de mars 2018.
Kalau kita lihat menurut kontribusinya, ya, yang signifikan menyumbang di sana.
Si nous regardons sa contribution qui a contribué de manière significative. Le premier est l'industrie de la transformation et le second, le secteur minier. Dans le secteur minier, il y a trois secteurs en forte hausse, à savoir le charbon est en hausse de 24,17%, 36,76% de minerais de cuivre et le lignité provient de l'exploitation minière. L'industrie de la transformation a également augmenté de 9,17%. La contribution de l'industrie était de 71%. Pour les exportations, les résultats de l'industrie de transformation qui ont augmenté assez grand de mois en mois sont l'acier, le cuivre, le vêtement et la poudre. Selon Kecuk Suharyanto, trois plus grandes destinations d'exportation d'Indonésie en mars 2018 sont la Chine avec les exportations de 2,36 milliards de dollars, suivi par les États-Unis 1,59 milliards de dollars américains et le Japon 1,43 milliards de dollars américains. La contribution totale de ces trois pays atteint 37,78% des exportations totales de l'Indonésie. En ce qui concerne les exportations vers l'Union européenne avec un total de 28 pays, l'Indonésie a enregistré 1,53 milliards de dollars dans le même mois. À l'avenir, les exportations indonésiennes vers les pays non traditionnels devraient augmenter, ce qui affecterait la croissance économique globale. À travers la 22e conférence générale de l'UNESCO de 1983, le 18 avril a été adopté comme la Journée internationale des monuments et des sites et ratifié par 167 pays, y compris l'Indonésie. Le patrimoine pour les générations est le thème adopté pour la Journée internationale des monuments et des sites en 2018. En tant que membre du Comité du patrimoine mondial en 2015-2019, l'Indonésie participe à commémorer la Journée internationale des monuments et des sites en organisant l'exposition et la discussion du patrimoine culturel intitulée « Partager des histoires, partager des connaissances ». Le directeur du patrimoine et de la diplomatie culturelle, Direction générale de la culture du ministère de l'Éducation et de la culture, Najamuddin Ramli, a dit que cette activité se déroulait du 16 au 20 avril. Lors d'une conférence de presse lundi, le 16 avril, il a souhaité que cette activité puisse produire les communications et le transfert de connaissances entre les générations. Pourquoi commémorons-nous la Journée internationale des monuments et des sites? Parce que cela est très important pour nous montrer et nous héritons à nos enfants et petits-enfants. Cette génération millénaire n'aura plus la fierté du passé si le patrimoine culturel mondial n'est pas protégé. Selon Najamuddin, l'Indonésie a 17 patrimoines mondiaux qui sont fixés par l'UNESCO. Les objets du patrimoine mondial sont le temple de Borobudur, Prambanan, le site des premiers hommes de Sangiran et Subak, 9 patrimoines culturels immatériels et batik, angklung, marionnette, kris, la danse saman, noken, la méthode de fabrication de batik, pinisi et 3 genres de danse balinaise. Le patrimoine culturel naturel est le parc national Ujung Kulon, le parc national de Komodo, le parc national de Lorenz et le patrimoine des forêts tropicales à Sumatra. En l'an 2017, l'Indonésie a 594 patrimoines culturels immatériels. À l'avenir, l'Indonésie présentera la vieille ville et le système d'exploitation du charbon Ombilin Sawah Lunto. Le centre de contrôle de la quarantaine et de la qualité du poisson de Padang dans l'ouest de Sumatra a déclaré que le thon de la Provence était exporté tous les mois vers le Japon et les États-Unis par Dempo Andalan Samudra Société Anonyme. Rudy Barmara, chef de la station de quarantaine pour le contrôle de la qualité et la sécurité des produits de la pêche à Padang, a déclaré que la société exportait chaque année 2000 kg de thon frais vers le Japon et environ 1500 kg de thon congelé vers l'Amérique. Il a expliqué Le Japon voulait du thon frais et qui a été nettoyé. Pendant ce temps, l'Amérique demande des poissons congelés et disséqués de différentes tailles. Selon Rudy Bergmara, chaque unité de gestion du poisson qui mène des activités d'exportation doit avoir un document sur l'analyse des risques et les points critiques. De plus, l'entreprise doit également avoir un document de santé sur le poisson et les produits du poisson à envoyer. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.